Le Radio.
Le salon des professionnels de la radio.
Broadcast Associé et Maxillaire font la radio du salon, le Radio 2013.
De retour au salon Le Radio, évidemment pour cette dernière journée, nous sommes donc mardi et de nombreuses personnalités arpentent le lieu et les différentes salles et les différents endroits où se déroulent les conférences. Evelyne Adam est avec nous de Radio France. Bonjour Evelyne.
Bonjour.
Hervé Pouchol est là aussi, bonjour Hervé.
Bonjour Mickaël, bonjour à tous.
Alors, on va parler un petit peu de la radio confession et de ces radios qui permettent aux auditeurs de s'exprimer. Souvent les auditeurs nous écoutent, mais régulièrement ils s'expriment aussi, ils ont des choses à dire. Comment on peut les amener, Evelyne, justement, comment on les amène à dire ce qu'ils ont sur le cœur et à donner leur avis sur des sujets divers et variés?
Alors, c'est vrai qu'a priori, ce qui pourrait être une priorité, c'est l'écoute.
Ouais. Hein,
il est très important d'écouter l'auditeur jusqu'au bout. Mais je pense que c'est avant tout un lien de confiance,
mm-hmm.
un lien, après, plus ou moins affectif. Dans mon cas, c'est une émission qui est installée depuis 13 ans sur France Bleu,
ouais.
et qui a créé ce lien affectif, ce lien de confiance, qui fait que les auditeurs ont tendance à se livrer avec une certaine facilité.
On se livre parfois plus facilement vers des gens qu'on ne connaît pas dans la vie de tous les jours.
On se livre par rapport à une voix déjà. Je reste convaincu qu'une voix est témoin d'un intérieur, est témoin d'une personnalité.
Uh-huh.
Et voilà, l'auditeur se sent à ce moment-là en confiance avec cette voix qui lui est familière, qui est une voix amie et à laquelle on peut dire les choses. Et puis c'est vrai qu'il y a sous le couvert de la radio, cet anonymat qui est préservé, qui fait qu'en ne voyant pas les visages, on se livre peut-être plus facilement parce qu'il y a ce respect de l'anonymat. Voilà, je pense que le soir, c'est un moment privilégié que de pouvoir dire les choses à quelqu'un que l'on ne connaît pas et que l'on a vraiment l'impression de connaître tout à la fois.
Est-ce qu'il y a des sujets qui reviennent souvent, des domaines privilégié que d'autres.
Je voudrais simplement rajouter, c'est vrai que la radio confession, c'est quand même une radio du soir. C'est vrai que les gens ont beaucoup plus tendance. Moi, je m'en étais rendu compte quand j'étais à l'époque sur Sud Radio,
j'avais
animé une émission qui s'appelait Les Allumés de la Pleine Lune, où les gens venaient jouer, mais vraiment pour gagner un porte-clés. Hein. Mais surtout, je me suis aperçu que c'était une vraie compagnie. Il y a une grosse concurrence avec la télévision, mais le fait d'être à l'antenne, le soir, il y a une autre écoute. Et ces personnes-là ont besoin de ce rendez-vous. Et vous devenez leur ami, mais vous devenez également leur confident. Et c'est ce que fait merveilleusement Evelyne sur France Bleu chaque soir. Et Dieu sait s'il y a des records d'audience le soir.
Et de plus en plus nombreux sont ceux qui me disent « Je laisse tomber la télé pour ce moment intime, ce moment confession, ce moment où je partage mes propres soucis avec ceux des autres et où je me rends compte que, quand je dis « je parle de l'auditeur », où je me rends compte que je ne suis pas la seule à vivre la situation qui est la mienne.
Oui.
Donc il y a un partage, il y a un lien, il y a cette anti-solitude.
Et une complicité également entre les auditeurs. Ça devient carrément un club qui se retrouve chaque soir avec leurs amis à qui ils vont très très loin dans les confessions. C'est pas le côté voyeur comme on a pu voir de temps en temps à la télévision. La radio confession, c'est vraiment une radio. Elle a carrément un rôle de psy le soir.
Est-ce que justement l'existence de la télévision favorise pas l'existence de ce genre d'émission à la radio,
justement.
Pas que
l'existence de la télévision, l'existence de tout ce qui est aujourd'hui écran informatique.
Mm-hmm.
Bien sûr, on est en train de tomber dans un virtuel qui fait que par ce biais de la radio confession, le soir, on retrouve une part d'humanité.
Et justement, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, ce genre de choses, sont complémentaires
Absolument.
De ce que vous faites à la radio.
Je travaille beaucoup avec, en même temps.
Est-ce que les gens s'expriment de la même manière à la radio quand ils sont à l'antenne que les messages que vous pouvez lire sur Facebook ou sur...
Oui, ce sont les mêmes. Je retrouve la même proximité, la même interactivité, la même réactivité aussi. Et puis je les sens tout aussi confidents et proches de moi que s'ils m'avaient au micro. Alors au micro, il y a un côté un peu plus démonstratif dans l'affectif. Et sur Internet, on sait que tous ceux qui sont au-dessus de vous, en dessous de vous, dans l'expression, tous ceux que vous voyez défiler, le lisent en même temps. Alors que quand on s'exprime à la radio, on a l'impression qu'on est seul.
Ouais. Et en plus, sur Internet, il y a le comme on utilise souvent un pseudo, il y a cet anonymat qui est le même que celui qui est à la radio.
Oui, c'est très important, cet anonymat. Oui. Il est à respecter.
Hein. Oui, tout à fait.
C'est ce qui permet aux gens d'être le plus honnête possible dans leur démarche.
Ouais. Ça va même très très loin. À l'époque, sur France Inter, votre illustre...
Macha
Béranger, oui. On peut le dire, a un peu inventé quand même la radio confession,
oui.
avant tout le monde.
Oui.
Ça allait quand même très 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 loin,
oui. Alors,
ces émissions,
moi,
parce que ça allait même des personnes qui étaient au bord du suicide, qu'elles rattrapaient.
Alors ça, je le fais, mais je le fais hors antenne. C'est-à-dire que je vais laisser aller l'auditeur jusqu'au bout, je vais positiver la situation à l'antenne, et hors antenne, je vais m'en occuper.
Il y a une ligne jaune à ne pas dépasser pour
vous. Oui, pour que... Moi, je suis le soir, je veille à l'antimorosité. Mmh. Je fais en sorte que l'auditeur, quand il me quitte, aille mieux que quand il est arrivé. Donc, je ne veux pas que cette morosité ambiante qu'il véhicule, parce qu'il y a un mal-être en lui, rejaillisse sur tout un auditoire.
Ouais.
Donc, mon rôle à moi, parce que c'est d'instinct, hein, je vais lui remonter, évidemment, le moral, je vais lui donner un petit coup d'aiguillon pour le réactiver, le redynamiser. Et à partir de là, parce que j'ai bien senti jusqu'où allait la fêlure, jusqu'où allait la blessure, et qu'il y a peut-être danger, à ce moment-là, j'accepte de le prendre en rente.
Alors pour vous, d'un point de vue plus personnel, il faut quand même avoir la capacité de recevoir tout ça. Parce que si vous êtes une éponge, entre guillemets, sur votre vie personnelle, est-ce que ça peut avoir une influence?
Alors ça peut avoir un impact, évidemment. Je crois que ça aussi, ça s'apprend. Hein. Ça fait partie d'une autoprotection qu'il vous faut apprendre et mettre en place. Quand le micro s'éteint à minuit, quand le rouge s'éteint, si je n'ai pas eu un enfant dans la douleur, tout le reste peut se négocier.
C'est un petit peu comme le guérisseur qui vous enlève le mal, pour ceux qui y croient. Hein.
Ouais.
Et puis après, il faut qu'il s'en débarrasse. Hein, parce qu'à force de soulager tout le monde, il va falloir qu'il se soulage lui-même et qu'il enlève toutes ces ondes négatives.
C'est quelque chose que je fais assez facilement aujourd'hui. Si, je vous le dis, un enfant n'a pas été touché.
Cela, c'est beaucoup plus difficile.
Voilà. Si je n'entends pas qu'il y a eu le soir... un enfant qui m'a appelé sur le coup de 22h en me disant « je suis à l'internat, je suis seul, ben non, je ne rentrerai pas vendredi parce que voilà, j'ai pas de parents et puis je ne suis pas bien traité ici ». Voilà, s'il y a un cas important comme ça, je pars avec un vrai souci et le lendemain, je fais en sorte qu'on le rappelle et que je sois tenu au courant de ce qu'il devient.
Sur des cas assez compliqués, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire appel à des organismes extérieurs pour venir en aide à un auditeur ou à un enfant, par exemple?
Bien sûr. Mais de toutes les manières, je m'en fais écho à l'antenne de ce genre de choses. Hein.
Ouais.
Je fais en sorte que le cas serve à tous. Mm-hmm. C'est-à-dire que si j'ai un enfant qui me dit qu'il n'est pas heureux à l'antenne, je rebondis immédiatement, je ne vais rien masquer.
Ouais.
Je vais faire en sorte de le quitter, comme je le disais tout à l'heure, en meilleure forme que quand je l'ai accueilli. Mais je tiens à ce que tout le monde sache qu'il y a un numéro pour les enfants battus, qu'on ne met pas des enfants au monde si on n'est pas fichu de s'en occuper, que ce qui doit aujourd'hui prévaloir sous tous les toits, c'est l'amour. Voilà.
Voilà, c'est une jolie conclusion pour cette partie de l'interview. Moi, je voudrais qu'on vienne quelques secondes sur Hervé, parce que Hervé, je crois qu'il a tout fait en radio. À peu près tout.
Presque tout.
Alors, justement, quelle est votre vision de la radio aujourd'hui? Parce qu'il y a tellement de façons différentes de faire de la radio. Le point commun dans tout ça, c'est quoi, finalement?
C'est l'amour du micro. Et je racontais dernièrement une anecdote. Comment est venue, et c'est une question qui revient souvent, comment est venu votre amour pour la radio? Moi, c'était à l'âge de 6-7 ans. J'écoutais RMC à l'époque et le fameux Jean-Pierre Foucault qui était associé à Léon.
Oui.
Et un jour, je disais à mes profs et à mes parents, tout le monde se marrait, un jour, je remplacerai Jean-Pierre Foucault sur RMC.
Ouais.
Et c'était quasiment un rêve inaccessible Et ce qui faisait marrer tout le monde, parce que c'était comme si on disait, bah tiens, je serais une star de cinéma ou une star de la télé. Ou... Et un jour, j'ai eu la chance, c'était en 92, de remplacer Jean-Pierre Foucault. Enfin, c'est-à-dire, il était plus là depuis de nombreuses années. Mmh. Mais à la même tranche, c'était à 9h sur RMC à Monaco, dans son studio mythique. Et ce jour-là, j'ai réalisé un rêve et je me suis dit, là, la radio, c'était mon rêve. J'ai au moins réalisé celui-là. Ensuite, c'est vrai que c'est une vraie passion. Ayant goûté, grâce à mon camarade Julien Courbet, que j'ai rencontré grâce à la radio, dans les années 90, la radio, ça m'a toujours manqué. Hein, ouais. Dès que je n'étais plus à l'antenne, c'est pour cette raison que Julien l'avait ressenti également et m'a proposé de revenir sur RTL, tout d'abord pour régler des problèmes de voisinage avec l'étiquette que j'avais.
Alors ça, c'est terrible, parce qu'effectivement, un mois à la télévision, on peut avoir une étiquette collée à vie. Alors que quand on fait 10 ans de radio, finalement, c'est pas tout à fait le cas, quoi. La télévision a une force.
Vous êtes une voix. Voilà, moi, je vois quand je prends un taxi ou que ce soit et que je lui demande la destination, il me dit « Ah, j'ai l'impression que je vous connais ». Parce que à ce moment-là, il ne me voit pas, il entend ma voix, il se dit « Là, là, j'ai une amie, je la connais, mais d'où je la connais, je ne sais pas ». Voilà. Tandis que quand vous avez un visage, regardez un petit peu l'étiquette sur Nikos, qui a eu du mal à décoller ça après la Star Academy. Ouais. C'est très difficile quand vous êtes visuellement accessible de pouvoir décoller ce que le téléspectateur a mis comme format sur vous.
Mais on ne s'en rend pas compte. Moi, je m'en suis vraiment rendu compte. J'avais fait une sorte de casting. Mon rêve, ça serait de refaire une matinale. Et j'avais fait un casting pour une radio musicale adulte et je me suis retrouvé avec deux autres animateurs, un autre journaliste qui est maintenant sur Europe 1 et puis Laurent Petit-Guillaume, pour ne pas le citer, qui lui a remporté le morceau. Et bravo,
je me rappelle
à lui.
De ce casting, on en avait parlé.
Et là, il y avait des commentaires, mais comment se fait-il que Médiateur des voisins vienne faire de la radio ou vienne postuler pour animer une matinale? C'était des jeunes qui n'avaient pas du tout suivi, je les excuse,
ce
parcours de radio,
interne,
pour moi, c'était
ça,
évident. Et la télé, on a forcément tout de suite une image de médiateur, alors que d'ailleurs, au départ, je suis plus animateur que médiateur.
D'ailleurs, Julien, lui aussi, a beaucoup de mal à décoller cette étiquette du vengeur masqué, quoi, grosso modo, qu'il y avait dans Sans aucun doute. Alors, cela dit, l'émission Ça peut vous arriver sur RTL, c'est aussi un peu une forme de radio-confession, parce qu'il y a des cas qui sont parfois très douloureux, et vous êtes obligé de rendre visite à des gens qui, d'abord, n'ont pas forcément envie que vous veniez les voir, et puis ensuite, qui exposent un peu quelque part leur situation devant tout le monde, quoi.
Non, avec la radio, là c'est vraiment la dernière chance. Quand les gens nous contactaient pour Sans aucun doute, c'était la télé quand même qui se déplaçait. Là, c'est la radio. Je suis au bout du rouleau. Je n'arrive plus à joindre telle assurance. Je n'arrive plus à joindre la personne qui me devait de l'argent, qui m'a fait une reconnaissance de dette. Là, à ce moment-là, on met tout en avant. Et le gros avantage de la radio, c'est qu'à la télé, on ne pouvait pas citer de nom. À cause du CSA. Et là, à la radio, on peut citer la personne en disant « Monsieur Castorama ou Monsieur AGF, il va falloir maintenant prendre vos responsabilités. » Et on arrive à résoudre des cas. À la télé, c'était difficile. On ne pouvait pas citer de nom. On était obligé de tout masquer. À la radio, au moins, on essaye d'arriver à trouver des solutions. Et ça se passe plutôt bien grâce au talent de Julien. Moi, mon rôle, c'est vraiment un rôle secondaire de médiation hors antenne, et j'essaye de faire le point pendant l'émission avec Julien par rapport aux gens que j'ai au bout du fil qui sont hors antenne et qui peuvent dire plus de choses à ce moment-là.
Dernière question, je la pose à tous les invités qui viennent nous voir. Où voyez-vous la radio dans 20 ans, Evelyne ?
C'est le comique du jour, ça. La radio dans 20 ans, je pense que côté auditeur, on aura toujours besoin de ce contact humain. Tant que nous serons autre chose que des ersatz d'humains et des robots, on aura toujours besoin de ce contact humain, parce que, mais là on va tomber dans un autre registre que j'aimerais bien développer autrement avec vous, mais voilà, tant qu'il y aura humanité, nous espérons un brin d'humanité. Voilà. Mais il me semble que on y va, hein. On est dans le numérique à fond, on est dans l'informatique. Aura-t-on besoin de... Vous voyez bien, vous faites de la radio, là. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour pouvoir faire la différence avec ce que nous faisons? C'est un émetteur.
Voilà.
Voilà. Alors, une fois qu'on aura revu les couvertures différemment, la TNT, là... Donc, l'avenir, c'est ça. C'est un simple micro, comme vous êtes installé là, avec un ordinateur. Et puis, on n'aura plus besoin de ce que nous connaissons, nous, et que nous défendons encore bec et ongle, et tant mieux, dans la maison de la radio. Ce sont de grands et beaux studios, avec un personnel, et je suis ravi de travailler encore avec un réalisateur, un technicien, une équipe standardiste et tout. Voilà, il y a des moyens humains et on y tient. Mais l'avenir de la radio dans 20 ans, malheureusement, ce sera comme pour tout le reste. Ce sera un micro, un ordinateur et une bonne voix.
Mais il faudra quelque chose à dire. Mais il faudra quand même des humains pour se servir
bien
de...
Sûr. Et de vraies personnalités.
De vraies personnalités qui auront quelque chose à dire. Comme on le disait avec Hervé, c'est pas le tout d'avoir une voix.
Oui, Hervé.
Elle a tout résumé. Moi, je crois que ça sera une radio sur le web, bien entendu, ce que vous faites. Il n'y aura plus d'émetteurs, à mon avis. Tout se passera sur le web. Maintenant, avec nos smartphones, on a notre programmation musicale, on a notre propre radio. Ce qui va faire la différence, c'est justement les personnalités, des animateurs, des journalistes, des présentateurs.
Et le contenu, non ?
Et le contenu. Il y aura une radio, pour ceux qui sont passionnés par la voyance.
Il y aura peut-être beaucoup plus de thématiques.
Oui, voilà, ça va être des radios thématiques. Et puis alors là, un choix, mais inimaginable. Et je pense qu'on ne parlera plus de généralistes.
De généraliste,
chacun aura sa propre radio ou se créera sa propre radio. Hein.
Se fera son propre programme.
Ce qui est dommage, et ce que disait Evelyne, c'est que la radio, c'est un travail d'équipe. Vous voyez, la personne qui est en face de nous, il est là, il participe à l'émission. C'est un travail d'équipe. Donc moi, j'étais toujours et toi, tu le fais régulièrement également sur Radio France et Mickaël le fait également sur RTL. Il faut toujours penser que la radio, c'est pas simplement un micro, un ordinateur. Il y a toutes les personnes qui sont autour.
Et puis ça nourrit l'humain de celui qui tient le micro.
Et c'est important d'avoir la réaction également du premier auditeur, qui est le réalisateur, le technicien. Moi, je les ai toujours associés parce que ça, c'est indispensable, dans l'humeur notamment.
Ouais.
Parce que faire de la radio tout seul, c'est pas évident. Et ça, c'est un art et moi, je sais pas faire.
C'est vrai qu'il y a quelque chose, ça aide beaucoup la personne qui est au micro de voir... les yeux, le visage, les réactions des gens qui sont dans le studio autour de nous.
Alors on vous dira que l'animateur doit être capable de pouvoir s'en passer. Hein, parce que l'animateur doit aller chercher au fond de lui ce qu'il a à donner à son micro. Il y a des animateurs qui ont tous travaillé en auto-technique. Mais ce que dit Hervé est juste, je ne me vois pas non plus... avec la formation qui a été la mienne et le souci de l'humain qui est le mien, travailler seul devant une machine, avec une machine pour des êtres humains.
Oui. Merci beaucoup, Evelyne Adam, Hervé Pouchon, d'être passé nous voir.
Merci.